Radio Zone, ondes femmes, 93,8 MHz. Nous vous donnons à écouter maintenant l'enregistrement d'une émission de la télévision suisse romande, Table ouverte, de dimanche 28 janvier 1990. Table ouverte qui avait pour thème « Faut-il introduire en Suisse le RU486, pilule abortive ?» Nous avons jugé utile de vous faire entendre le débat. Ce débat, puisque l'enjeu est important et l'interruption de grossesse n'étant jusqu'à maintenant pratiquée que sous forme d'une intervention chirurgicale en Suisse. Et la pilule RU486 peut donc représenter une alternative et être considérée une méthode douce d'avortement.
Notre activité, notre travail au niveau du public en faveur du RU486, c'est bien dans le sens pour nous d'accroître, favoriser la liberté de choix des femmes en ce qui concerne une grossesse. Pour nous, c'est une chose extrêmement importante que la maternité soit choisie. Donc, on pense aussi qu'il n'est pas favorable, il n'est pas souhaitable qu'une femme, que des parents aient des enfants dans des conditions qu'ils n'ont pas choisies. C'est bien pour cela que, mettant en face le RU486, une méthode non chirurgicale, face à la méthode classique chirurgicale, il nous semble que dans ce sens, la pilule favorise, accroît la liberté de choix des femmes. Et je crois que dans la mesure où une découverte scientifique existe, qu'elle a été très longuement testée au niveau international, qu'elle est pratiquée en France depuis plus d'une année, avec plus de 40 000 femmes qui l'ont pratiquée avec dans des conditions extrêmement bonnes, je pense qu'on peut considérer que dans la déclaration des droits de l'homme, la déclaration de l'ONU, on nous dit que chaque individu a droit à profiter des découvertes scientifiques qui améliorent le statut d'une personne, qui améliorent les soins qu'on peut lui prodiguer. Et je pense dans ce sens, c'est un droit auquel les femmes peuvent accéder, et je pense en ce sens que le RU est un droit de plus. Ce n'est pas pour l'avortement, c'est pour améliorer les conditions de choix d'une femme à partir du moment où elle s'est résolue à l'avortement. On ne choisit jamais l'avortement. Alors, d'après les chiffres que la firme pharmaceutique qui produit cette pilule m'a donné, 35 000 femmes en France ont déjà absorbé cette pilule, qui est disponible dans 420 centres d'orthogénie, c'est-à-dire que c'est là où on pratique des avortements. À se demander, professeur Lejeune, si cette pilule peut avoir des effets nocifs. Alors, je vous présente d'abord. Vous êtes professeur de génétique fondamentale à Paris, vous êtes catholique, vous êtes farouchement opposé, on va le voir, à cette pilule RU486 et à l'avortement en général. Avant de vous céder la parole, permettez juste une précision qui me semble importante pour les téléspectateurs. Si nous avons fait appel à un médecin français en votre personne, c'est parce que pas un médecin suisse romand, même de ceux qui militent contre cette pilule RU486 et contre l'avortement par conséquent, pas un n'a jugé bon de venir ici défendre son point de vue. C'est regrettable, comme quoi il est donc plus facile de se dire contre en petit comité que de venir argumenter sur le plateau face au public. Voilà, ceci dit, professeur Lejeune, alors est-ce qu'on peut repérer, est-ce que d'après votre connaissance, cette pilule peut avoir des effets toxiques?
Je voudrais vous rassurer tout de suite, je ne suis pas si farouche que vous avez l'air de le redouter.
Vous
inquiétez pas, c'est pas si grave que ça. La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis désolé que mon ami Beaulieu ne soit pas là. Nous sommes des vieux amis, étant donné que nous avons fait nos études ensemble. Nous différons absolument d'opinion. Je suis pour la médecine hippocratique. J'ai juré d'exercer mon art et de passer ma vie dans l'innocence et la pureté, c'est le serment d'Hippocrate, qui dit précisément, je ne prescrirai pas de poison, ni ne suggérerai pareil usage, et je ne donnerai pas de pessaire abortif à une femme. Hippocrate a tout dit, 400 ans avant l'époque chrétienne. Alors j'ai été très heureux que monsieur, pardonnez-moi, j'ai pas retenu votre
Pierre
nom, mon
Grandi,
cher confrère.
Le professeur Pierre de Grandi.
Pierre de Grandi ait dit ce qu'il fallait dire, à savoir, le RU est une fausse clé. C'est un produit qui a été fabriqué pour coincer un mécanisme normal qui permet à l'enfant de survivre. Alors, ce que l'on propose à l'heure actuelle, et ce que propose M. Beaulieu, c'est d'utiliser, en fait, une véritable guerre chimique avec une munition binaire. C'est-à-dire que le RU486 empêche l'action de la progestérone qui, elle, permettait à la muqueuse utérine de nourrir l'enfant. Donc l'enfant meurt de faim. Et puis le second, c'est-à-dire une prostaglandine, va provoquer des contractions extrêmement sévères, et finalement, le premier le tue, et le second l'expulse. C'est bien une munition binaire, et cela va produire un holocauste chimique redoutable.
Oui, vous ne mâchez pas vos mots, d'ailleurs, vous qualifiez cette pilule de pesticide anti-humain.
Je l'ai dit, et c'est tout à fait un pesticide anti-humain, et je vais vous dire pourquoi je l'ai dit. C'est parce que c'est le ministre Évin qui a signé le papier qui l'a dit. Il n'a pas su qu'il le disait, mais c'est dans son texte. Et dans son texte, il est dit « Personne n'a le droit de prescrire la pilule, sauf le médecin qui fait des interruptions volontaires de grossesse. » C'est le texte français. Ça veut bien dire que c'est un pesticide anti-petits hommes. Autrement, le ministre de la Santé ne l'aurait pas écrit noir sur blanc dans le journal officiel de la République française. Je ne mets pas en doute la parole d'un ministre français.
Donc pour vous, les effets toxiques de cette pilule abortive
sont les seuls utilisés et les seuls permis. C'est dans la loi. Vous avez dit que la France était le seul pays, et je n'en suis pas fier, hélas, qui utilise cette pilule pour tuer ses propres enfants. Eh bien, il est interdit d'utiliser en France cette pilule pour autre chose que pour tuer des enfants. Ça prouve bien qu'il ne sert qu'à ça.
Donc c'est un toxique anti-fœtus, ça.
C'est un pesticide anti-humain, c'est tout à fait clair. Et le ministre de la Santé l'a reconnu dans son autorisation de mise sur le marché. C'est pas moi qui lui ai dicté son texte, soyez sûr.
Alors nous y reviendrons. Je voudrais présenter une autre invitée, Madame Cécilia Tignot. Vous représentez ici l'association Perspective, dont les membres sont en majorité protestants. D'ailleurs, son secrétaire, Sophie Ferrer, est un pasteur. Alors vous êtes aussi opposée à cette pilule RE486. Vous l'avez fait savoir en prenant les devants et en lançant une pétition qui vise à interdire cette pilule sur le marché suisse. Alors, quelques explications en images.
En juin 1988, dans toute la Suisse, l'appel de Genève emploie des formules choc. Il cite aussi bien l'Évangile selon saint Matthieu que le professeur Lejeune. En face de la pilule abortive, que faire? La pilule de Beaulieu, écrit le professeur Jérôme Lejeune, tuera peut-être plus d'êtres humains que Staline, Hitler et Mao réunis. Même améliorée, cette pilule ne sera-t-elle pas cause, à longue échéance, de l'augmentation du risque d'apparition d'un cancer? Une fois de plus, la femme, prétendument bénéficiaire de prétendus progrès, ne sera-t-elle pas une victime? À l'heure actuelle, les auteurs de cette pétition ont récolté près de 29 000 signatures. Parmi les signataires, 110 médecins. Les listes s'entassent dans les tiroirs de l'Office fédéral de la santé, qui se contente d'accuser réception.
Madame Tignot, alors pourquoi cette pétition tout d'abord?
La presse souvent, les médias nous accusent souvent d'être des conservateurs catholiques, les deux. Mais je précise que chrétien, un groupe chrétien, ça ne s'écrit pas de la même façon que crétin. Nous avons le respect pour la vie. Devant nous, on a mis la vie et la mort dans nos mains. Il faut choisir la vie afin que nous puissions vivre.
On a l'impression que cette pétition est un cri d'alarme, est-ce que c'est cela?
Tout à fait, parce que comme des chrétiens, nous sommes des sentinelles, il faut tout de suite réveiller la population au danger avant que le danger arrive. Et c'est ça, pourquoi nous avons lancé ça? Nous avons eu plus que 100 médecins qui ont signé, dont 24 femmes, qui est tout à fait représentatif de la population des médecins en Suisse, parce qu'il y a 20% des femmes médecins en Suisse.
Vous citez dans votre appel de Genève une phrase du professeur Lejeune qui cite Mao, Staline et Hitler réunis, pourquoi pas Ceausescu pendant qu'on y est. Vous ne pensez pas que c'est un peu excessif?
Disons que Ceausescu, avant la Roumanie avant était un pays très très libre, l'avortement était admis, mais Ceausescu, en voyant que le nombre de ses citoyens diminuait, a changé de politique et a fait justement les lois contre l'avortement. Et puis maintenant, j'ai des échos de Roumanie en disant que les femmes vont à la clinique en disant « Maintenant, nous sommes contentes, nous pouvons mener à terme nos grossesses parce qu'il y a l'espoir pour le futur de nos enfants. »
Oui, mais c'était une boutade de ma part, excusez-moi, mais néanmoins, on imagine bien que si on additionne les morts causées par Hitler, Mao et Staline, c'est des chiffres énormes, on n'arrivera pas à une chose pareille avec une pilule abortive. Madame Tignot.
À Genève, déjà, 3000 femmes par an qui avortent. C'est 50% des grossesses à Genève. Donc ça, c'est une petite ville, Genève. Ce n'est pas la plus grande ville du monde.
Madame Jobin, comment est-ce que vous réagissez, vous, au titre de représentante ici de l'Association pour le droit à l'avortement et la contraception? Comment vous réagissez à cet appel de Genève?
Vous parlez de choisir la vie. Choisir la vie, oui. Respect de la vie, oui. Mais quelle qualité de vie? Je crois que c'est ça qui est essentiel. Et nous luttons pour le droit à l'avortement parce que nous pensons que chaque enfant qui naît doit avoir été choisi, qu'on doit se réjouir de l'accueillir et qu'il n'y a rien de pire qu'une grossesse non désirée pour le développement de la femme, mais pour le développement de l'enfant aussi.
Donc vous êtes favorable à cette pilule abortive, oui. Du doux nom de RU486. Alors pour quelle raison précisément ?
J'aimerais, avant de vous dire pour quelle raison, vous donner juste faire une petite remarque. Je regrette beaucoup qu'on parle de la pilule abortive. On va faire un amalgame avec une pilule contraceptive pour laquelle on a dû se battre pendant plus de 20 ans pour qu'elle soit dans les mœurs. Et on va repartir là dans un débat que je trouve dommage. Il n'y a pas d'amalgame à faire. En plus, on vient de nous dire que ce sont trois comprimés. Le nom scientifique, c'est le RU486. Quant à moi, j'insisterai beaucoup pour utiliser cette expression, mais je crois beaucoup aux suggestions que le langage peut provoquer.
C'est-à-dire qu'au niveau du langage, vous estimez que cette pilule ne crée pas, n'engendre pas d'avortement ?
Pas du tout, c'est pas ça, c'est parce qu'on dit la pilule. On dit la pilule abortive, puis un jour on enlèvera le abortif et puis on dira la pilule. Et puis on ne saura plus de quoi on parle. Et je trouve que c'est important. Nous y sommes favorables pour des raisons tout à fait proches de celles que Mme Sautebin a exposées. Je pense que dans la mesure où nous luttons pour que la femme ait le droit de choisir et que si elle a décidé de faire une interruption de grossesse, il est préférable qu'elle ait un choix de méthode. Je considère le RU comme une alternative à la méthode traditionnelle. Il ne s'agit en aucun cas de remplacer l'une par l'autre. Monsieur de Grandy pourra probablement donner des développements sur les méthodes, mais nous savons qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Des avantages sont certainement le fait qu'on évite un acte opératoire chirurgical, qu'on évite une narcose et qu'on évite certains traumatismes physiques en tous les cas.
Alors justement sur ce point, Madame Noël, vous représentez ici, vous êtes membre du comité central de Oui à la vie, vous êtes opposée à cette pilule. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il serait peut-être une bonne chose d'éviter aux femmes qui doivent interrompre leur grossesse, de leur éviter une opération, une anesthésie, des risques d'infection, des risques même de peut-être de déchirure du col de l'utérus? Et puis si l'on voit même à l'échelle mondiale, d'éviter peut-être la mort de milliers de femmes qui meurent des suites d'avortements chirurgicaux mal faits dans des conditions d'hygiène déplorables?
Oui, alors je voudrais dire que je suis effectivement pour la vie et que je suis opposée à cette pilule parce que je ne pense pas qu'elle résolve le problème. Une femme qui est conduite à l'avortement, elle est dans la détresse, c'est vrai. Elle est absolument désespérée. Mais il faut peut-être savoir qu'il y a certaines lois, peut-être faut-il les améliorer sur un plan fiscal, sur le plan des logements, faire une véritable politique d'accueil et de la famille, que cet enfant, dans nos pays occidentaux, où on pratique en abondance des avortements, soit supprimé, qu'on n'ait pas envie de supprimer une vie, n'est-ce pas ? C'est tellement fondamental, c'est tellement extraordinaire de pouvoir donner la vie à quelqu'un. Et alors, je trouve très ennuyeux quand nous, mères, devons décider de qui doit vivre. Quand on doit se débarrasser d'un gêneur, on entre dans un grave problème, n'est-ce pas ? Si on doit supprimer tous les gens qui vous gênent, parce que ce bébé que nous attendons, il n'est pas un agresseur, c'est un enfant. Il résulte de quoi ? De la lâcheté, finalement, d'un homme qui n'a absolument pas pris ses responsabilités. Et la femme, une fois de plus, se retrouve seule devant ce choix. Il faut savoir qu'il y a d'autres alternatives. Il faut accompagner une maman qui attend un enfant. Et quand elle pourra prendre cette pilule jusqu'au 49e jour, parce qu'il ne faut pas la prendre après, vous nous direz pourquoi. Et quand il faut prendre... chaque maman sait que les premières semaines de grossesse, on n'a pas le moral, même si on a envie d'un enfant. Et alors, avoir cette pilule abortive à disposition peut faire entraîner des drames psychologiques et absolument irréversibles. Et il ne faut arrêter de dire aux mamans qu'avorter, ça n'est pas se faire arracher une dent. Il y a des études de plus en plus nombreuses maintenant, où l'on parle maintenant du syndrome post-avortement, où des mamans qui ont avorté 2-3 fois sont blessées à vie. Elles souffrent de névroses. Il y a des dépressions nerveuses très très grandes. Sur une étude qui a été faite sur 4000 suicides de femmes, 45% avaient avorté. C'est vous dire la détresse de ces mamans qui avortent.
Alors là, je vous arrête. Professeur de Grandy, est-ce que vous dites aux femmes qui viennent vous demander un avortement que c'est aussi simple que de se faire arracher une dent ?
À jamais, du tout. Alors, je suis très intéressé de voir que d'emblée, le débat a dérapé. D'emblée, ça a dérapé en dehors de la question de cette pilule sur la question de l'avortement. Et monsieur Lejeune, qui est un généticien fondamental, a dit qu'il pratiquait la médecine dans la pureté et l'innocence, qu'il ne fallait pas distribuer de poison.
C'est maman qui dit ça, c'est Hippocrate.
C'est Hippocrate, c'est Hippocrate. Vous adhérez tout à fait,
ah, oui,
comme moi à ce serment, seulement vous l'interprétez de façon un petit peu curieuse quand vous dites que le médecin ne doit pas distribuer de poison, tous les médicaments sont potentiellement des poisons. Ceci dit, j'ai beaucoup apprécié votre intervention parce qu'elle sonne vraie. C'est la seule jusqu'à présent qui a vraiment sonné vraie. Le problème de l'avortement, c'est un problème difficile, c'est un problème douloureux. Pour nous, c'est un problème quotidien. Et vous avez un avantage sur moi, certainement, qui est celui d'être une femme. Moi, j'ai l'avantage sur vous tous, que je connais le problème tous les jours, que je suis confronté avec ce problème tous les jours, que je suis confronté avec cette hésitation, avec cette difficulté tous les jours. Ce que vous proposez est idéal, généreux, intelligent, pour une humanité clairvoyante et bienfaisante. Mais dans le quotidien actuellement, c'est pas encore comme ça. Ici, c'est un peu gênant d'avoir deux factions qui s'abordent, l'une pour, l'une contre. C'est pas comme ça. C'est pas l'une pour et l'une contre. Il y a plusieurs solutions à un problème qui n'aura jamais de bonne solution. Même votre solution ne sera pas toujours la bonne solution. C'est un problème très difficile.
Alors, pour revenir aux questions médicales, si vous permettez.
Sur les questions médicales, car vous avez dit que nous étions d'accord sur le serment d'Hippocrate. Je veux dire aux téléspectateurs que vous n'avez pas dit la vérité. Car dans le serment d'Hippocrate, il est dit « Je ne donnerai pas de pessaire abortif ». Pessaire abortif, c'est un produit chimique qu'on mettait dans le vagin et qui provoquait l'avortement. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes médecin suivant Hippocrate si vous pratiquez des avortements avec la pilule. Vous ne pouvez pas dire ça, mon cher ami.
Alors, monsieur Lejeune,
c'est pas la vérité.
Il faut choisir dans la vie. Est-ce qu'on veut être médecin hippocratique rallié à une tradition classique intéressante à laquelle je participe. J'ai étudié comme vous le grec et le latin, tout ça, j'ai des racines culturelles. Tout à fait d'accord. Mais il s'agit de répondre à un problème. Il s'agit pas de faire de l'abstraction et de se demander si nos racines culturelles sont bien plantées ou mal plantées. Il s'agit de répondre à un problème très important de tous les jours.
Le problème très précis, c'est de savoir si le médecin avorte ou n'avorte pas, fait des avortements.
Je vais vous répondre très clairement mon sentiment à ce sujet-là. Moi, je fais des avortements. J'en fais pas systématiquement. Quand une femme vient nous voir, on a des commissions, on s'occupe beaucoup de ça, et quand une femme vient personnellement me voir, je lui dis que si elle veut vraiment avoir un avortement et qu'elle aura bien réfléchi, et qu'elle a des raisons pour l'avoir, pour faire cette interruption de grossesse, cette interruption de grossesse sera faite. Ceci pour dédramatiser la situation dans laquelle elle se trouve, de panique, dans laquelle elle n'est pas capable de décider objectivement du choix des inconvénients qu'elle préfère, car c'est de ça qu'il s'agit, du choix des inconvénients qu'elle préfère. Permettez. Si cette femme vient me voir en tant que médecin et que je lui dis « Écoutez, madame, moi, je suis le serment d'Hippocrate, je suis un médecin classique et propre, et je ne m'occupe pas de ces problèmes. Vous allez voir Monsieur X, qui lui est un médecin pas propre, qui, comme vous, n'êtes pas propre, va s'occuper de vous entre gens pas propres. Et je trouve ça, je ne peux pas faire ça en tant que médecin. Je pense que ma fonction médicale passe avant ma conscience personnelle à moi. Je trouve que ma fonction médicale consiste à examiner chaque cas en particulier et en détail, de façon à trouver une solution, la moins mauvaise, je précise, pour chaque cas. Je pense qu'il est inadéquat de la part d'un médecin de refuser d'entrer en matière dans un problème médical.
Alors, restons aux questions médicales, si vous voulez bien.
Restons aux questions médicales, ça, j'ai besoin de répondre.
Non, écoutez, veuillez, s'il vous plaît, me permettre de dire ceci. Il faut que nous revenions à l'appel de Genève, qui était quand même très intéressant, cette pétition, dans laquelle il était dit, sous forme de question, que cette pilule pouvait éventuellement augmenter le risque d'apparition de cancer. Alors, d'après vos études, professeur de Grandi, est-ce que c'est exact?
On n'en sait rien, absolument rien. À ma connaissance, pas. À ma connaissance, on ne sait pas. Mais ça, c'est une chose... C'est possible. Mais c'est très simple de brandir simplement des... C'est un réflexe classique. On a dit ça à peu près pour tout. On aurait pu dire ça pour les chemins de fer à l'époque, bien entendu. On a toujours dit ça.
Certaines pilules, comme le Depo-Prova, qui sont des pilules qui ont été retirées des étals de la vente aux États-Unis, en Angleterre, parce que 20 ans après, on s'aperçoit que ça provoque des cancers. C'est ce que dit le professeur Israël dans ce livre, n'est-ce pas? Il faut attendre 20 ans pour savoir qu'il y a des effets nocifs et cancérigènes d'un produit. Donc, on fait absorber des prostaglandines en dose massive à la maman, qui la rend malade. Et à long terme, qu'est-ce que cela donne?
On ne sait pas. Madame, moi, je comprends.
Il y a tellement de cancers jeunes.
Mais ça, c'est des projections qui ne sont absolument pas documentées. Vous faites peur aux gens avec des choses non documentées. Une dose unique de prostaglandine, ça n'a, il y a des années que ça s'étudie, là, ce prostaglandine, ça n'a jamais eu d'effet secondaire, sauf immédiate. Le Provera dont vous parlez, c'est un traitement qui est utilisé dans le traitement du cancer du sein, dans le traitement du cancer de l'endomètre, qui est utilisé largement dans le traitement de ces cancers. Il ne faut pas... Moi, je trouve qu'il faut dire les choses quand elles sont bien documentées. Il ne faut pas dire n'importe
quoi. Alors, parlons du distilbène qui a été distribué aux mamans et dont on sait maintenant que les filles ne pourront pas avoir d'enfants. C'est quand même fou.
C'est pas tout
et il a fallu attendre une génération pour s'en apercevoir.
C'est de nouveau pas tout à fait juste. C'est vrai que le distilbène est une catastrophe aux États-Unis, c'est absolument clair. Et c'est précisément en raison de votre attitude que ça a été une catastrophe. Parce que des médecins aux États-Unis ont donné des hormones à des femmes en début de grossesse qui avaient des petits saignements, sans qu'il soit jamais été documenté que donner quelque hormone que ce soit à une femme en début de grossesse puisse
Madame,
avoir un effet sur la conservation de la grossesse.
J'ai l'honneur de vous demander la parole.
Alors donc, ces médecins ont fait l'erreur de donner ce médicament. C'est une erreur manifeste.
Alors on revient à cette pilule.
Vous l'avez donnée pendant 25 ans.
Revenons à cette pilule RU486.
50-71.
S'il vous plaît, revenons à cette pilule abortive RU486. Est-ce qu'on a, en définitive, c'est cette question, assez de recul par rapport aux effets potentiels qu'elle peut avoir pour finalement affirmer qu'elle n'a pas d'effet secondaire ou pas d'effet nocif?
Radiozone en femme 93. 8 MHz. Vous écoutez l'enregistrement de Table ouverte du 28 janvier 1990, une émission de la télévision suisse romande sur le thème de la pilule abortive RU486.
Votre langue a fourché.
Ce n'est pas ce que
de laisser supposer aux gens, en tout cas c'est ce qu'ils risquent d'avoir entendu, de leur laisser supposer, c'est parce qu'on respectait la vie qu'on a donné le distilbène. C'est une erreur médicale profonde qui n'a rien à voir avec les gens qui respectent la vie.
Nous allons pas entrer dans le débat
clair. Il ne faut pas tromper les téléspectateurs. Maintenant, je voudrais dire, car monsieur a eu la parole beaucoup plus longtemps que moi, et je voudrais dire que je suis généticien. Et vous m'avez reproché de ne pas m'occuper de la personne qui venait me voir. Vous vous trompez. J'ai la plus grosse consultation d'enfants inadaptés de l'Europe et probablement du monde. Je suis au service de ces enfants. Et quand je parle du début de la vie, je sais parce que je l'enseigne à mes étudiants, et si je ne l'enseignais pas, je ne serais pas honnête, que la vie humaine commence à la fécondation. Tout ce que nous savons le démontre. Mon métier, c'est de leur dire.
Et vous voudriez que je ne tienne pas compte de l'autre
personne qui est là? Le petit qui est en train de se développer dans le ventre de sa mère, vous voudriez que je considère que quand on ne tue personne, je ne peux pas considérer ça.
Je n'ai jamais dit que quand on fait un avortement, on tue personne. Quand on fait un avortement, on tue quelqu'un.
On tue un être humain, il n'y a aucun
doute. Je n'ai jamais dit autre chose.
Et c'est pour cela que je suis Hippocrate. Et nous différons en cela, car vous ne le suivez pas.
Madame Jobin, si vous...
J'aimerais revenir à la réalité, je crois que c'est très important. À l'ASDAC, nous gérons depuis 10 ans une ligne téléphonique, le droit de choisir. Nous avons chaque semaine, régulièrement depuis 10 ans, des téléphones et nous informons les femmes sur soit les interruptions de grossesse, soit la contraception qui est absolument liée, soit sur la maternité. Cette réalité, elle existe. J'aimerais que M. De Grandi puisse expliquer à ces femmes et aux autres qui auront besoin de ce genre de service quelles sont les alternatives diverses du RU par rapport à un avortement traditionnel.
Alors, vous avez rapidement la parole avant que nous le passions à Mme Tignot, s'il vous plaît.
Bon, alors, l'utilisation du RU, c'est très limité dans le temps, à savoir que ça peut être efficacement employé que dans les 3 semaines qui suivent la date à laquelle auraient dû apparaître les règles manquantes.
Ce qui est court. Hein.
Ce qui est très court pour une femme, pour se décider à demander une interruption de grossesse, car, contrairement à ce que pensent certains opposants, les femmes ne décident jamais à la légère de demander une interruption de grossesse. C'est toujours très difficile. On entend toutes sortes de remarques, comme quoi ces femmes font ça n'importe comment, des avortements les uns après les autres. Ça n'est pas vrai. Pour une femme, c'est un geste très négatif. Vous n'avez pas dit ça, mais je l'ai entendu ailleurs. C'est un geste très négatif et il lui faut un certain temps. Bref, 3 semaines, ce n'est pas toujours assez. Ceci dit, si c'est possible dans ce délai court d'obtenir par ailleurs les autorisations légales de pratiquer une interruption de grossesse, car en Suisse, l'interruption de grossesse dépend du code pénal, article 120, si toutes ces conditions sont réalisées, la femme recevra 3 pilules à prendre avec un petit peu d'eau. Elle sera ensuite, elle restera chez elle reviendra à l'hôpital pour mettre en place dans la cavité vaginale un gel de prostaglandine. Et ensuite, elle sera contrôlée 8 à 10 jours plus tard pour s'assurer que la cavité utérine, l'utérus, est vide, sera contrôlée par une méthode non-invasive, non-sanglante, qui est l'échographie.
Donc c'est un encadrement médical assez important quand même.
Tout à fait, et c'est même de la part des femmes. J'aimerais dire à ce propos-là que les 45 femmes, dans la dernière étude que nous avons faite, qui a été interrompue parce que Roussel se retire la pointe des pieds de ce problème, dans cette dernière étude, les 45 femmes qui ont été abordées pour donner leur assentiment à rentrer dans une étude contrôlée, en sachant très bien ce qui se passait, toutes ont accepté.
Et... Alors, une des grandes peurs des adversaires de cette pilule, c'est qu'elle banalise l'acte d'avorter, au fond. Madame Tignot, de quoi avez-vous peur exactement? Est-ce que vous avez peur que les femmes prennent à la légère une pilule RE486 qui traînerait, par exemple, dans leur pharmacie de salle de bain, ou est-ce autre chose?
De toute façon, le problème, c'est que c'est un système self-service. Il faut le prendre, c'est la femme responsable, elle prend ça, devant le médecin, je sais, mais en Suisse, on est mieux suivi. Mais vous, si le RU480 machin est vendu au tiers-monde, vous pensez qu'il y a une surveillance là, pour ces femmes? Quand ils font le prostaglandine, vous pensez qu'ils vont être suivis s'ils ont des hémorragies à la maison? Vous pensez qu'il y a une sécurité sociale pour ces gens qui vont payer les hémorragies ou bien les suites après? Puis en plus, je voulais préciser, comme professeur Lejeune a dit, on n'en a pas assez de recul pour ça. Et puis pourquoi donc, si on n'a pas assez de recul, on teste ce produit sur les femmes? Parce que nous, c'est gratuit, les femmes, il faut tester sur les femmes, c'est gratuit. Mais pour tester sur le chimpanzé, c'est beaucoup plus cher. Donc je ne suis pas d'accord qu'on ait décourbé.
Vous avez deux craintes, au fond, si je comprends bien. D'une part, que cela s'apprive en fait, de manière libre et sans encadrement médical, et que d'autre part, cela fasse augmenter le nombre d'avortements. C'est bien cela?
Disons oui, parce que le professeur de Grandi a dit qu'il n'y a pas de bonne solution, il y a plus de solutions. Mais l'avortement n'est pas une solution, c'est un échec. C'est un échec personnel parce que la femme ne peut pas faire face à la responsabilité. C'est un échec social et politique parce que, comme dans la Suisse, nous sommes dans un pays de tiers-monde. En fonction des allocations sociales pour les femmes, de l'aide aux femmes, on reçoit des allocations familiales qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ridicule. Il n'y a rien pour offrir aux femmes. En Suède, disons, à une année et demie de congé payé pour une maternité, et le père et la mère peuvent le prendre comme ils veulent, ils ont 60 jours pour soigner un enfant malade. Et ici en Suisse, qu'est-ce qu'on a? Rien. On nous fait voter pour les vignettes d'autocollants, pour les autoroutes, mais on n'a rien pour les femmes et pour les enfants qui doivent assumer leurs responsabilités. L'avortement est payé par l'assurance, les traitements psychiatriques coûtent 100 000 francs par chaque femme. Ce chiffre n'est pas dit parce que Mme Kopp, de sinistre mémoire, a refusé de publier les chiffres d'avortement en Suisse. Elle a refusé de publier le coût de l'avortement en Suisse. Alors pourquoi les femmes qui ont décidé d'avoir les enfants, ou bien qui ont envie, qui ne veulent pas avorter parce qu'elles savent que ce n'est pas bien, elles savent, il ne faut pas nier ça, alors pourquoi on ne peut pas faire?
Alors avant de passer la parole aux téléspectateurs, je voulais juste donner la parole à Mme Sautebin qui l'a peu eue depuis le début du débat.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, sur les carences sociales qui subsistent en Suisse et qui sont complètement anachroniques avec le niveau de vie qu'on a pu atteindre dans ce pays. C'est absolument vrai. J'ai été une des porte-parole de l'initiative pour une protection de la maternité. J'ai mis plus d'énergie dans ma vie à défendre la protection de la maternité et les défenses des droits sociaux des femmes, droit à un salaire juste, etc., que à défendre la liberté de l'avortement. Mais en ce qui concerne maintenant notre débat, c'est clair qu'une femme, comme l'a redit le professeur Grandi, ne décide jamais de plein gré et jamais avec joie au cœur d'avorter. C'est le résultat d'un échec. Un échec social ou un simple échec technique où la contraception n'a pas fonctionné. La femme avait fait le choix de ne pas avoir d'enfant.
Elle a acheté du père aussi.
Ça peut.
C'est le concret.
On va pas culpabiliser ou juger les personnes qui ont recours. Une femme qui se trouve devant le fait d'un enfant qu'elle n'a pas désiré peut choisir de le garder et beaucoup le font et en sont contentes. Mais d'autres ne peuvent pas. Socialement, personnellement, psychiquement, affectivement, elles ne sont pas dans l'état d'accepter cet enfant. Et cet enfant risque de ne pas être heureux. Alors, quand il y a échec, je pense que c'est un droit, c'est un devoir, c'est un droit de la femme d'avoir
un moyen de recourir, de résoudre cet échec. Et c'est un devoir, je dirais, du corps médical, c'est un devoir au niveau politique de laisser accès aux femmes à un recours à l'échec. Et dans ce cas-là, le RU ne banalise absolument pas l'avortement. Vous n'avez pas la pilule sur le coin de la table de nuit. Ce n'est pas possible. L'encadrement qui est exigé en France aujourd'hui est extrêmement strict. On dit même qu'il est beaucoup trop strict. Je suis pour protéger aujourd'hui le fait que ce soit très strict et très exigeant. Or, la femme qui avorte avec le RU 486 fait un acte beaucoup plus difficile que de s'allonger sur une table pour être opérée. La femme, elle décide elle-même, elle prend la pilule elle-même, elle va à la maison et elle aura une fausse couche, qui est plus difficile probablement à assumer que de se réveiller après une narcose.
Tout à fait.
Au niveau de la blessure physique, c'est clair, elle est moindre. Mais au niveau de la blessure et du choix psychique, c'est plus compliqué. Alors, ne disons pas et n'acceptons pas votre discours qu'on banalise l'avortement. Absolument pas.
Martina Chiba, vous qui faites la synthèse des questions des téléspectateurs, alors dites-nous, qu'est-ce qu'ils veulent savoir ?
Alors, vous pensez bien que la pilule sème la discorde à notre standard comme ailleurs. Là-bas aussi, il y a les deux camps qui sont représentés à cette table. Alors, il y a d'un côté ceux pour qui la pilule est plutôt difficile à avaler, si l'on ose dire, et qui nous disent « on défend les droits des femmes, mais qui s'occupe des droits de l'enfant, même si celui-ci n'est pas encore né ?» D'un côté, nous avons ceux qui aimeraient souligner que la vie des femmes est souvent plus amère que cette pilule à prendre. Et on se pose souvent la question en ce qui concerne les filles très jeunes qui ont fait une erreur de jeunesse, une bêtise, et qui se trouvent confrontées à ce problème très grave. Alors on peut déjà poser la question aux personnes qui sont opposées à l'utilisation.